Chapitre 34. À 12 ans, j'ai contracté une infection extrêmement virulente. Je me souviens de m'être plainte de me sentir chaude et nauséeuse, et puis de m'être réveillée à l'hôpital. 6 jours avaient passé. Vu sa tête, ma mère n'avait pas dormi de tout ce temps-là. J'étais faible et sonnée, trop épuisée pour lever la main, trop dans le coltard pour comprendre à quoi rimaient les méandres de fils et de câbles reliés à mon corps. Ma mère était assise dans un fauteuil à côté de mon lit d'hôpital. Mais lorsque mes yeux s'ouvrirent, elle se leva d'un bond.
« Oh, Dieu soit loué !»« Maman ?»
Des années que je ne l'avais pas appelée comme ça.
« Je suis là, mon amour. Tout va bien. Je suis avec toi. »
Je me rappelle avoir refermé les yeux, la sensation fraîche de ses doigts qui repoussaient mes cheveux de mon visage en sueur. Je m'assoupis, agrippée à son autre main. Et à cet instant, je me sentais en sécurité. Je me sentais protégée, parce que ma mère était à mes côtés, et parce que, quand on a 12 ans, on croit que les parents peuvent nous sauver de tout. 2 semaines plus tard, mon père nous annonça notre départ. Même moi, je l'avais vu venir. J'avais passé toute une semaine à l'hôpital, examinée sous toutes les coutures par des grands pontes. Les anonymes ne peuvent se permettre de susciter ce genre d'attention. Je fis moi-même mon unique valise, ce n'était pas difficile. Quelques jeans, chemises, chaussettes, sous-vêtements, ma seule jolie robe. Prendre le doudou, prendre Boomer. Le reste, je savais déjà que je devais le laisser derrière moi. Mon père s'était absenté pour vaquer à diverses occupations, solder ses comptes avec le propriétaire, faire le plein de la voiture, quitter encore un boulot. Il laissait toujours à ma mère le soin de préparer les bagages. Apparemment, faire tenir toute une vie d'adulte dans 5 valises était un travail de femme. J'avais regardé ma mère se livrer à cet exercice d'innombrables fois. Généralement, elle fredonnait un air sans y penser, agissait machinalement. Ouvrir le tiroir, plier, mettre dans la valise. Ouvrir un autre tiroir, plier, mettre dans la valise. Ouvrir le placard, plier, mettre dans la valise. Fini. Ce jour-là, je la trouvais assise au bord du lit double dans la chambre exiguë, à contempler ses mains. Je m'assis sur le lit à côté d'elle, m'appuyais contre elle, épaule contre épaule. Ma mère aimait Cleveland. Les 2 femmes âgées au bout du couloir l'avaient prise sous leur aile. Elle l'invitait le vendredi soir pour jouer à la belote en sirotant du Crown Royal. Notre appartement était tout petit, mais mieux que celui de Saint-Louis. Pas de cafard, pas le crissement strident du train de banlieue qui freinait pour s'arrêter à une encablure de là. Ma mère avait trouvé un emploi de caissière à temps partiel à l'épicerie du coin. Le matin, elle se rendait à pied à son travail après m'avoir mise dans le bus. L'après-midi, on faisait de longues promenades dans les rues tranquilles bordées d'arbres et on s'arrêtait près d'un bassin voisin pour nourrir les canards. Nous avions tenu 18 mois, nous avions même survécu à l'extrême rigueur de l'hiver. Ma mère affirmait que la neige grise et fondue ne l'ennuyait pas du tout. Elle lui rappelait simplement la vie en Nouvelle-Angleterre. Je crois que ma mère aurait pu s'en sortir à Cleveland.
« Je suis désolée. »
lui murmurai-je alors que nous étions assises côte à côte sur le lit.
« Chut. Peut-être que si on refusait toutes les deux. Chut. Maman. »
« Tu sais ce que je fais un jour comme celui-là ? » me demanda ma mère. Je fis non de la tête. « Je pense à l'avenir. »«
Chicago ?»
demandai-je sans comprendre, car c'était là que mon père avait dit que nous allions. « Non, Bécas. L'avenir dans 10 ans. Dans 15, dans 20, dans 40 ans. » J'imagine ta cérémonie de remise de diplôme, j'imagine ton mariage. Je rêve que je tiens des petits-enfants dans mes bras. Je fis la grimace.
Burke, ça n'arrivera jamais.
Bien sûr que si.
Non, jamais. Je ne me marierai pas.
À son tour de sourire, d'ébouriffer mes cheveux, de faire comme si nous ne voyions pas toutes les deux que ses doigts tremblaient. C'est ce que pensent tous les enfants de 12 ans.
Non, je suis sérieuse. Pas de mari, pas d'enfant. On est trop souvent obligé de déménager quand on a des enfants.
« Oh, chérie, » dit-elle tristement en me serrant très fort contre elle. Je repensais à ma mère en sortant de mon appartement, Bella sur les talons, mon taser à la main. Descendre les escaliers de mon propre immeuble sur la pointe des pieds en pleine journée paraissait mélodramatique. Bobby avait raison. Je n'étais plus en sécurité dans mon appartement. Comme on dit dans le monde des agents secrets et des doubles vies, ma couverture était grillée. Alors je ferais aussi bien de suivre le conseil de Bobby et de me terrer un moment à l'hôtel. C'est ce qu'aurait fait mon père. Mais partir voulait dire prendre des affaires voulait dire valise. Or celle-ci était stockée dans le casier dont chaque locataire disposait au sous-sol. J'avais déjà été y chercher les affaires un nombre incalculable de fois, je me dis qu'aujourd'hui n'était pas un jour différent. L'escalier craqua sous mon pied. Instantanément, je me figeai. J'étais sur le palier du troisième, juste devant la porte de l'appartement 3C. Je la regardais, le cœur battant, guettant la suite, puis très vite, je me repris et me morigénais. Je connaissais les locataires du 3C, un couple de jeunes actifs. Ils avaient un chat tigré gris du nom d'Ashton, qui aimait cracher sur Bella par-dessous la porte. Hormis l'attitude d'Ashton, nous avions tous réussi à cohabiter pendant 3 ans. Il n'y avait aucune raison d'avoir brusquement peur d'eux. Mais la question, c'était plutôt, pourquoi ne pas avoir peur de l'appartement 3C? Mon angoisse n'ayant pas d'objet tangible, il était facile de voir se dessiner dans toutes les ombres obscures la silhouette du sinistre oncle Tommy. Je descendis au deuxième, puis au premier. Dans le hall commença le plus difficile. Mes mains tremblaient. Je devais faire un effort de concentration. Je triai mon trousseau de clés, trouvai enfin la bonne et l'enfonçai dans la serrure. La petite porte, vieille et lourde, s'ouvrit en gémissant et révéla une plongée noire dans les entrailles de cet immeuble séculaire. Je tâtonnai au-dessus de moi pour trouver la chaînette qui allumait l'ampoule nue de l'escalier. L'odeur était différente ici, froide et moisie, comme des pierres moussues ou de la terre humide, comme dans la tombe de Doré. Bella descendit les 3 escaliers en bois à toute vitesse sans se poser de questions. Au moins l'une de nous était courageuse. En bas, les casiers grossiers en contreplaqué étaient fixés au mur du fond. En tant que locataire du 5e, j'avais celui du bout fermé avec mon cadenas personnel. Je dus m'y reprendre à 2 fois pour l'ouvrir. Pendant ce temps-là, Bella faisait le tour du sous-sol avec les petits soupirs joyeux d'un chien qui déniche des trésors. Je sortis les bagages de mes parents. 5 valises vert pomme, recouvertes d'une sorte de tissu industriel rafistolé avec quantité d'adhésifs au fil des années. La plus grosse couina de manière inquiétante lorsque je la fis rouler par terre. Et je revis alors tant d'images du passé. Mon père, ce dernier après-midi-là à Arlington. Ma mère qui défaisait joyeusement les valises dans notre premier appartement, grisé par le radieux soleil de Floride. Refaisait les bagages à Tampa, l'arrivée à Bâton Rouge, le bref passage à la Nouvelle-Orléans. Nous avions réussi. Lutter, construire, corriger, combattre, regretter. Perdre, haïr, gagner, pleurer. Dans le désordre, la frénésie, l'acharnement et la détermination. Mais nous avions réussi. Et jamais jusqu'à cet instant mes parents ne m'avaient autant manqué. Jusqu'à ce moment où mes doigts se refermèrent sur mon collier et où j'aurais juré que je les sentais à mes côtés dans ce lieu humide et froid. Et je compris alors qu'à leur place, j'aurais fait la même chose. J'aurais retourné ciel et terre pour sauver mon enfant. Renoncer à mon boulot, à mon identité, à mes amis et même à ma vie. Ça en aurait aussi valu la peine à mes yeux. C'était justement cela, être parent. Je vous aime. Je vous aime, je vous aime, essayai-je de leur dire. Je voulais croire qu'ils m'entendaient. Ne serait-ce que parce que, sans cette étincelle de foi, je n'aurais pas valu mieux que Monsieur Petracelli, noyé dans son amertume et dans ses regrets. « Il faut aller de l'avant, disait toujours mon père. » « Vous allez voir, ça va être notre ville préférée. »« Allez de l'avant, » murmurai-je. « Ok, papa, ça marche. » Je disposais les bagages, refermais mon casier à clé et sifflais Bella. Vu le poids, il allait me falloir 2 voyages. Je commençais par la plus grosse valise, sanglais un autre sac dessus et passais un des plus petits sur mon épaule. Je remontais qu'à un cas les 3 couloirs entre les casiers, levai les yeux, et vit la silhouette de Charlie Marvin se découper au sommet des escaliers, ses yeux qui scrutaient l'obscurité et me trouvaient. Bobby se dirigeait vers le bureau de Sinkus lorsque son portable sonna. Il regarda qui appelait avant de répondre.
« Tu as eu le fax ?»«
Bonjour à toi aussi, » dit Catherine.
« Désolé, beaucoup de choses en même temps. »«
Comme je peux le déduire du fax. Eh bien, pour répondre à ta question, le portrait pourrait représenter le même homme. »
Pourrait ?
Bobby, ça fait 27 ans.
Tu as très facilement reconnu la photo du père d'Annabelle, répliqua-t-il.
J'ai discuté avec lui, répondit Catherine contrariée. Il m'a contredite, a insisté jusqu'à ce que je m'énerve contre lui. Ça m'a marqué. Le croquis, en revanche, ce dont je me souviens le mieux est ma première impression. L'homme du portrait n'était pas celui qui m'avait agressé. Bobby soupira. Il avait maintenant besoin de quelque chose de plus catégorique.
« Mais il est possible que ce croquis soit le même que celui qu'il t'a montré à l'hôpital. »«
C'est possible, » reconnut-elle. « Qui est-ce » demanda-t-elle après un temps.
« L'oncle d'Annabelle, Tommy Grayson. On a découvert qu'il avait commencé à épier Annabelle quand elle avait environ 18 mois, Sa famille a fui de Philadelphie à Arlington pour essayer de lui échapper. Il les a retrouvés.
Tommy connaissait Richard?
Pas qu'on sache, mais il a probablement eu l'idée de se servir d'une cavité souterraine en apprenant ton enlèvement par la presse.
Ravi d'avoir pu être utile, railla Catherine.
Parce qu'il la connaissait mieux que la plupart des gens, Bobby s'arrêta. Ce n'est pas de ta faute.
Elle ne dit rien.
Et d'ailleurs, continua-t-il avec entrain, maintenant qu'on connaît le nom de Tommy, l'affaire est pratiquement bouclée. On le coince, on le coffre, et point final.
Tu viendras fêter ça en Arizona?
Catherine.
Je sais, Bobby. Tu iras fêter ça au restaurant avec Annabelle.
Autour de Bobby de se taire.
Je l'aime bien, Bobby. Sincèrement. Ça me réconforte de savoir qu'elle va être heureuse.
Un jour, tu seras heureuse, toi aussi.
Non, Bobby. Pas moi. Mais peut-être que je serai moins en colère. Bonne chance avec ton affaire, Bobby.
Merci.
Et quand ce sera fini, n'hésitez pas, toi et Annabelle, à venir me rendre visite.
Bobby savait qu'il n'honorerait jamais cette invitation, mais il remercia Catherine avant de mettre fin à la conversation. Un détail de réglé, une douzaine d'autres à voir. Il se dirigea vers le bureau de Cincus.
Cincus était vexé comme un pou, un vrai gamin qui serait allé voir un match et qui aurait regardé ailleurs pile au moment de l'action décisive. Il sentait aussi le lait caillé.
« Tu veux dire que pendant tout ce temps, le professeur connaissait l'histoire ?»«
J'imagine. »«
Et merde, dire que j'ai passé 3 heures avec Jill Cochrane, tout ce que j'ai appris, c'est que les anciennes administratrices de pavillons psychiatriques sont plus coriaces que des bonnes sœurs catholiques. »«
Quoi, elle t'a tapé sur les doigts avec une règle ?»
Non, j'ai eu droit à un cinglant discours sur l'injustice de toujours penser le pire des malades mentaux. Le cinglé est une personne, il a des droits. La plupart sont inoffensifs, juste incompris. Vous verrez, m'a-t-elle dit, trouvez le coupable et je vous garantis que ce ne sera pas un de nos patients. Non, ce sera un notable, un homme en vue. Quelqu'un qui va à la messe, gâte ses enfants et fait des horaires de bureau. Ce sont toujours les gens normaux qui commettent les véritables crimes contre Dieu. Madame a plein d'idées sur la question.
« Bon, où sont les archives ?» demanda Bobby en s'efforçant de ne pas laisser paraître son impatience.
« Tu les as devant toi, » répondit Cincus en désignant 4 cartons empilés contre le mur.
« Moins grave que ce que je craignais. Rappelle-toi que l'endroit a fermé avant l'ère informatique.
J'imaginais qu'il y aurait peut-être des centaines de cartons.
Mais à la fermeture de l'établissement, Madame Cochrane a compris qu'il ne pourrait pas conserver des montagnes de dossiers médicaux. Alors elle les a condensés jusqu'à un volume gérable. » Comme ça, quand quelqu'un a besoin d'un renseignement sur un ancien patient, elle sait par où commencer. Et puis, j'ai cru comprendre qu'elle envisage de se servir des années qu'elle a passées là-bas pour écrire un bouquin. Un genre de grand déballage à faire pleurer dans les chaumières.
Bobby haussa les épaules.
Pourquoi pas?
Il ouvrit le premier carton. Jill Cochrane était du genre organisé. Elle avait classé les informations par décennie, puis par bâtiment, chaque décennie contenant de nombreux dossiers par bâtiment. Bobby essaya de se rappeler ce que Charlie Marvin leur avait dit sur l'organisation de l'hôpital. La haute sécurité était le bâtiment 1, quelque chose comme ça. Il alla aux années 70 et sortit le dossier du bâtiment 1. Chaque patient était résumé en une seule page, ça pesait encore bien lourd dans sa main. Il tomba d'abord sur le nom de Christopher Eola et parcourut les notes de Cochrane. Date d'admission, brefs antécédents familiaux... Une série de termes médicaux qui n'avaient aucun sens pour Bobby, puis apparemment l'impression personnelle de l'infirmière en chef. Extrêmement dangereux, extrêmement sournois. Plus costaud qu'il n'en a l'air. Bobby mit un autocollant jaune sur la page pour pouvoir y revenir. Il était certain que la scène de crime à Matapan était l'œuvre de l'oncle d'Annabelle. Ceci posé, il était tout aussi certain que quelque part au même moment, Christopher Eola avait perpétré ses propres crimes contre Dieu. Quel que soit le dénouement de l'affaire de Matapan, il avait le sentiment que la cellule de crise serait d'accord pour continuer à rechercher M. Eola. Il survola d'autres dossiers médicaux, attendant que quelque chose lui saute aux yeux. Un post-it en néon qui proclamerait « c'est moi le cinglé ». Une annotation du médecin « ce patient est le plus susceptible d'avoir enlevé et kidnappé 6 fillettes ». Les notes signalaient chez nombre de patients un passé violent, ainsi que des activités criminelles diverses et variées. Mais au moins la moitié n'avait aucun antécédent. Interné par la police, divagation sur la voie publique, ces phrases revenaient très souvent. Avant même que la crise des sans-abri ne fasse les gros titres dans les années 80, les sans-abri étaient clairement en crise à Boston. Bobby passa tout le tas en revue et s'aperçut que c'était devenu une grosse masse indistincte et déprimante. Il s'arrêta, revint en arrière, essaya encore.
« Qu'est-ce que tu cherches ?» demanda Sinkus.
« C'est pas.
Ça complique l'affaire. »«
Qu'est-ce que tu fais ?»
Sinkus brandit lui-même un dossier bien épais.
« Le personnel. »«
Ah, des spécimens intéressants ?»«
Juste Adam Schmidt, l'A.S. pervers. » »«
Quel connard, tu l'as retrouvé ?»«
On y travaille. Et l'âge ?»«
Quoi ?»«
L'âge, tu cherches un patient qui pourrait être Tommy Grayson, non ?» Tu as dit qu'il avait 7 ans de moins que Russell Granger. Il faisait des séjours en prison et ou à l'hôpital depuis qu'il avait quoi, 16 ans?
D'après ce que savait Russell.
Donc, s'il a été admis à l'hôpital psychiatrique de Boston, il nous faut un homme jeune. Adolescent ou la petite vingtaine.
Bobby considéra ce raisonnement.
Ouais, bonne idée.
Il recommença à classer les feuilles et ramena la pile à 14 hommes, y compris Eola et un autre cas dont Charlie Marvin lui avait parlé. Le gamin des rues qui s'appelait Benji et qui avait fréquenté le lycée tout en séjournant dans l'établissement psychiatrique moribond. Et après, Bobby regarda sa montre, grimaça. Il avait déjà pris 1h30, il était temps de trouver un hôtel qui accepte les chiens et de retourner chercher Annabelle. Il prit les 14 feuilles. « Je peux en faire une copie ?»«
Je t'en prie. Et tu n'avais pas dit que Charlie Marvin travaillait à l'hôpital psychiatrique ?»«
Il était à S, » expliqua Bobby. Pendant ses études. Ensuite, il y a fait du bénévolat comme aumônier jusqu'à la fermeture.
Sûr de ça?
C'est ce qu'il a dit. Pourquoi?
Sinkus fronça les sourcils.
Bobby, j'ai des décennies de grands livres de paix sous les yeux. Des années 50 jusqu'à la fermeture. Je peux t'affirmer qu'aucun Charlie Marvin n'y a jamais gagné un copec.